www.radioville.ch.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Mais il y a tellement de chats errants, je trouve terrible.
Parce que c'est toujours les plus forts qui vont gagner.
Faites la rencontre un peu plus loin de la Suisse.
De certains EMS, comme c'est les fins de vie, et ben ça fait pas envie.
Je suis fumeuse, donc j'aurais envie de dire ça m'embête.
Pourquoi pas, mais moi ça me dérange pas parce que je prends jamais le train.
Et puis on est obligé d'écouter.
Bonjour Jean-Marc Richard. Alors, si vous arrivez à l'instant sur LFM, c'est étudié pour ce patchwork en parole.
Oui, et du reste, on pourrait faire un petit jeu. Alors, vous avez reconnu les puces pour les chats. Mm-hmm. Vous avez reconnu le G7 parce qu'il faut le faire ailleurs. Vous avez reconnu peut-être un des thèmes un peu plus émouvants de cette semaine, choisir sa mort. L'autre, la fumée. Et le dernier, les wagons silence. C'est les sujets qu'on va aborder tout à l'heure, bien sûr. Alors, il y a eu des tendances assez claires, puis parfois c'est un peu partagé, mais je dirais que les wagons silence ont obtenu la palme du pourcentage le plus élevé pour le oui, quelque chose comme 80 à 85%. Les puces, c'était pas mal aussi pour les chats, mais il y a eu un petit peu de résistance, en particulier pour celles et ceux qui ont des chats qui vivent à l'intérieur. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on va aborder. On va réécouter ou écouter les messages parce qu'on en a reçu plein, qu'on n'a pas eu le temps de diffuser. Puis on va faire le point avec notre rédacteur en chef du matin.ch, Laurent Zibelman, qu'on accueille tout à l'heure. Mais vous pouvez déjà donner votre avis sur l'un de ces sujets au 079 844 00 77.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Reprenons le cours de ce récapitulatif de la semaine de vous d'abord.
Et on va commencer par les puces de chat en saluant sans relation aucune, bien sûr, Laurent Zibelman, rédacteur en chef du matin.ch. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Marc, bonjour Valérie.
On va commencer par les puces de chat et on va écouter un message de Marie. Pourquoi Marie ? Parce que c'est elle qui nous avait suggéré de traiter ce thème il y a maintenant quelques semaines.
Il y a quand même énormément de chats en Suisse qu'on oblige les propriétaires de chiens, ce qui est logique, à pucer nos chiens, alors qu'on a quand même plus de chances de perdre un chat que de perdre un chien, parce qu'en général, le chien, on l'a plus ou moins sous contrôle, normalement. Il y a énormément de chats errants, ça se reproduit à une vitesse mais vertigineuse. Si on pouvait pucer ces chats, ben déjà, ça nous permettrait de retrouver les propriétaires, leur dire, voilà, votre chatte est portante, elle est gestante ou elle a fait des petits. Et puis de toute manière, moi je pense, hein, honnêtement, et là je pense que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais ce n'est pas grave. En plus de la puce obligatoire, moi je pense que tous les chats devraient être castrés et stérilisés. Parce qu'il y a une prolifération féline en Suisse, c'est quelque chose de juste incroyable.
Assez carré, mais effectivement, c'est un peu la tendance. C'était oui, clairement, pour la puce. Il y avait un petit bémol parce qu'il va falloir, pour la plupart de ceux qui avaient un avis un peu modéré et qui étaient contre, payer une nouvelle taxe. Et puis, il y avait toutes celles et tous ceux dont les chats restent à l'intérieur. Laurent, un avis, un sentiment par rapport à ça ? C'est un sujet qui a provoqué beaucoup de réactions.
Oui, parce que c'est un sujet extrêmement concernant et c'est vrai qu'il y a une prolifération énorme des chats, on le sait, hein, et qui s'attaquent aux oiseaux. Il y a même des propriétaires qui attachent de chats donc qui sortent, non pas des chats d'appartement, qui attachent des petites clochettes à leur chat afin de faire peur aux oiseaux, afin que ceux-ci ne soient pas attaqués par et décimés par leur animal. Oui, tracer les chats, savoir d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils font, c'est important, hein, sinon on va vite être envahi. Les chats dominent la planète, vous le savez bien Valérie et Jean-Marc. Oui. Nous ne sommes que les locataires de la Terre.
C'est ça.
Le chat est le chef. Oui.
Et Valérie habite chez son chat.
Pareil.
Ah bah ça, oui. Mais je pense que tous ceux qui possèdent un animal à quatre pattes ont cette impression, non ?
Exactement.
Ça, c'est certain. Ils colonisent le canapé, ils colonisent la chaise, ils colonisent tout.
Témoignage d'Anouk qui nous raconte pourquoi c'est important, selon elle, de pucer les chats.
Personnellement, ça m'a permis d'identifier un de mes chats quand il est mort. J'ai pas fait pucer un autre de mes chats et je l'ai jamais retrouvé. Ça, c'était une erreur. Et je trouve que ça permet d'identifier ces animaux quand on les aime. Comme nous, on a des passeports. Si on aime nos bêtes, ben on le fait pour pouvoir permettre de les identifier, au fait. Même s'ils sortent pas. Hein. Moi, mon chat, il est tombé du balcon. Il peut se perdre. Ben, la puce permet de l'identifier. On est responsable et on sait qu'il y a des coups. Et je pense que c'est pour le bien du chat.
Alors, il y a quand même eu des avis contraires, dont celui de Stéphane, qui ne voyait pas l'intérêt de pucer ses chats.
Ben, moi, je trouve que, ouais,
Franchement, c'est une idée un peu stupide. Parce que les chats, ça leur arrive de fuir, mais en principe, ils reviennent toujours. Genre, la mienne, elle était partie. Le lendemain, je l'ai retrouvée. Mais je trouve que déjà, ça coûte cher. Et c'est inutile pour les chats.
C'est pas certain que ça coûte quelque chose. Hein. Pour l'instant, c'est en débat et en discussion. Et puis, à chaque fois que des propositions ont été faites de rendre obligatoire le puçage des chats, ça a été refusé par les différents parlements, hein, quand même, faut le dire.
Oui, je crois qu'il faut laisser, en tout cas pour l'instant, libre à chacune et à chacun de pucer son chat. Monsieur oublie un petit détail. Alors, un détail, évidemment, qui est un peu funeste, mais si, malheureusement, un chat venait à être blessé ou pire, à être tué, ça permet aussi de pouvoir identifier tout de même le propriétaire et de pouvoir prévenir ce propriétaire. Donc ça a plusieurs vertus finalement, cette puce. Mais pour l'heure, laisser un peu la liberté aux gens de choisir, c'est finalement pas si mal.
Bonjour LFM, est-ce que je peux vous demander si vous pensez que ce serait bien que ce soit obligatoire de pucer vos chats?
Oui, je pense que c'est bien parce que j'ai fait l'expérience une fois avec un chat qui est arrivé sur ma terrasse. Il s'est trouvé comme à la maison. Je ne savais pas qui il était. Je me suis attachée à ce chat pendant 3 semaines. Je suis allée jusque chez le vétérinaire qui n'a pas trouvé de puce. Pour finir, j'ai trouvé une annonce comme quoi quelqu'un recherchait ce chat. Et puis, il est revenu le chercher. Et puis, ça m'a fait très mal au cœur parce que franchement, je m'y étais attachée.
Alors oui, moi, je trouve qu'un chat, il a besoin d'être pucé parce que quand on perd notre petit minon, hein, ben c'est triste. Au moins, on peut le récupérer. On peut le retrouver et ça protège. Mais il y a tellement de chats errants, je trouve terrible. C'est pas normal.
Alors j'allais quitter ces deux dames qui étaient au bord du lac à Lutry quand l'une m'a rappelé en disant: vous voulez pas faire un prochain débat sur la puce pour les hommes et les maris en particulier? Voilà, 079 844 00 77. Tout à l'heure, autre sujet, le G7.
Vous d'abord avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Le récap de la semaine, c'est jusqu'à 13h sur LFM et Carré 3 avec le rédacteur en chef du matin.ch, Laurent Zibedman.
Valérie, Laurent, on a eu beaucoup de réactions déjà sur notre WhatsApp à l'instant par rapport aux puces de chat. Gaël, Bribri qui vont dans le sens de la tendance et du sentiment qu'il est important de pucer ses chats. Véronique qui dit qu'elle est même pour une taxe qu'on devrait redistribuer aux refuges qui sont surchargés. Elle souligne le fait que beaucoup de gens prennent des chats mais ne les éduquent pas et qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'élevage et ils se font beaucoup d'argent, je la cite, et se fichent bien de savoir s'ils vont finir en refuge. Voilà 3 messages parmi d'autres que nous avons reçus. Vous pouvez en faire maintenant sur le G7 au 079 844 00 77, un peu comme ce message-ci.
Moi, ça m'énerve complètement cette histoire. De tout ce qu'on va payer pour la France, ils avaient qu'à faire ça à Paris et assumer eux-mêmes leur truc. Quant à la manifestation, elle est parfaitement inutile parce que ça ne va rien changer. Et puis le G7 aussi, c'est beaucoup d'argent pour des mecs qui vont bouffer, discuter, mais rien changer du tout. De toute façon, qui pensent qu'à eux, qu'à leurs intérêts. Donc totalement inutile. Et tout cet argent dépensé, c'est un vrai scandale. Quand on pense qu'il y a des gens qui ont faim, des gens, les retraités qui ne s'en sortent pas, etc., etc.
Et ce message est arrivé avant qu'on découvre le prix du repas entre Monsieur Trump et Monsieur Macron à Versailles. J'ai vu aujourd'hui sur le matin.ch, je crois, oui. Il était assez élevé quand même.
C'est très élevé, oui, ça fait un peu mal. Cela dit, s'agissant de la manifestation genevoise, même si je rejoins en partie ce que vient de dire cette auditrice, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Voilà, bon, il y a eu des heurts, la ville a été sans dessous-dessous, je pense que c'était difficile pour les genevoises et les genevois ce passage, il y a eu beaucoup de tension, mais ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, moi, je me pose juste une question, alors, toute bête, hein, lambda. Pourquoi ces messieurs et dames font-ils ces rendez-vous dans des lieux, finalement, assez publics? Pourquoi ne pas faire ça dans un endroit qui soit plus isolé?
Oui. On a eu des propositions. Oui, on avait, dites-moi, par exemple, de le faire en ligne.
Ah oui, par exemple.
Il y en a une autre, de le faire en Corse. Je ne suis pas sûr que c'était une super idée. De le faire sur une île déserte. Voilà, mais ça va dans votre sens. Hein.
Mais oui. Je me pose souvent cette question. Cela dit, il y a eu quelques résultats tout de même qui sont tombés après ce G7. Mais c'est vrai que le rapport en plus entre la France et la Suisse sur ce coup-là, et Genève en particulier, a été plus rude qu'à l'époque de Jacques Chirac, qui s'était montré extrêmement diplomate et qui avait proposé que la France vienne financièrement en aide à la ville de Genève après les dégâts qui avaient été commis. Ce qui n'a pas été le cas là tout à fait d'Emmanuel Macron. Macron.
Non, et oui, Valérie.
Non, non, c'était juste le complément du dîner, le coût du dîner. Je voulais juste ajouter ça.
Oui, combien ?
450 000 euros à la louche. À la louche. Bon, Anne-Sophie de Pic et Yannick Alino pour faire manger tout le monde.
Bien sûr, j'espère.
Ah, ça refroidit,
j'espère que
le vin tout
était
suite.
Bon quand même. Hein. Et que le dessert était
servi. Surtout qu'il n'en boit pas, toi, un pays boit du coca.
Mon Dieu, quelle horreur.
Bon, alors, on va écouter Jean-Philippe qui, lui, était plutôt favorable au G7.
Les démocraties qui se réunissent pour discuter des problèmes, mettre fin aux guerres. Je pense que si on les empêche de chercher, ils ne trouveront pas. Il faut qu'ils se mettent autour d'une table. Même si ça avance doucement, c'est mieux que de ne pas causer. Je vois qu'il y a une partie, petite partie de la population qui est paranoïaque et puis qui a l'impression que les dirigeants complotent dans leur dos, comme ils ont l'impression que les chaînes trahissent, les empoisonnent. Bon, il faut manifester pour les femmes, il faut partir, c'est légitime. Mais quand le G7, c'est un peu une balle dans le pied.
Voilà, et puis alors Roger, lui, il met en exergue une problématique qui n'a pas été abordée dans le cadre du G7 et il fait un joli jeu de mots sur Evian.
J'aime bien cette année parce que c'est le G7 d'Evian. Il porte très bien son nom, d'Evian. C'est une rencontre de gros légumes qui vont faire un peu de la recherche politique quantique. J'ai entendu ce matin qu'ils n'allaient pas parler de l'environnement. On est quand même toujours sur Mer-Terre et puis c'est climat qui dirige.
C'est vrai que ça n'a pas été... Alors, notre invité, lors de cette émission, qui était Louis Lema, qui est donc rédacteur international du côté du Temps, faisait la remarque suivante en disant « c'est Trump qui ne veut pas ».
C'est ça, Trump ne veut pas. Et puis, Emmanuel Macron l'a dit, il a rappelé encore hier soir, lors d'une interview qu'il a accordée à France 2, certains dossiers un petit peu chauds, on va dire quelques sujets un peu clivants, ont été évités soigneusement par Emmanuel Macron lors de la venue de Donald Trump. Le but était de pouvoir avancer, notamment sur le dossier ukrainien, de pouvoir avancer sur la guerre au Moyen-Orient, en particulier le rapport États-Unis-Iran. Le reste, vraiment, ces sujets dont on sait très bien que Donald Trump est un petit peu chatouilleux à leur propos, ont été soigneusement évités.
Il a quand même très clairement dit en arrivant autour de la table « I'm the boss
hein. ».« I'm the boss ». Bon, il a rigolé après, ça fait sourire moyennement ses copains autour de la table. C'était pas fin, disons-le.
Et c'est surtout la devise, si vous arrivez en retard à une séance, tentez-le, I'm the boss.
Ah oui, c'est pas mal ça.
Ah ben,
c'est
ça. Ah oui. Ah ben, je vais le tenter, tiens.
On va essayer. Voilà, 079 844 0077 si vous avez un avis sur ce sujet.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Et le récap de la semaine jusqu'à 13h.
Avec beaucoup d'émotion pour ce thème, avec cette question, doit-on donner la liberté ou se donner la liberté de choisir sa mort ? Et c'était très intéressant de voir la différence entre les messages qui nous sont parvenus et ce que les gens en disaient dans la rue. Alors on va justement commencer par la rue et par le Vox Populi à ce sujet.
De certains MS, comme c'est les fins de vie, eh ben ça fait pas envie. Donc je suppose si on a décidé avant ce qu'on veut faire, c'est bien.
On est libre, on meurt libre. Hein, je veux dire, je vois pas pourquoi quelqu'un devrait décider à notre place de comment on doit mourir. Quoi.
Donc normalement, vu qu'on est des pays laïcs, plus ou moins, on devrait pouvoir choisir. Et après, ouais, je peux comprendre du point de vue des catholiques, des musulmans, des juifs. Je pense qu'au bout d'un moment, ça à chacun de faire son choix. Si on souffre trop, au bout d'un moment, ouais, on établit bien les animaux. Qui on est autant qu'homme pour être au-dessus des animaux aussi.
Et un premier message que nous avons reçu dans le courant de l'émission qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de vous proposer.
Alors personnellement, moi, je trouve que oui, on devrait pouvoir choisir. Moi, je suis inscrite à Exit depuis déjà 7 ou 8 ans. Dans ma tête, c'est déjà prévu que quoi qu'il arrive, je ne resterai pas là à traîner des années à souffrir et tout et tout. Effectivement, on ne choisit pas sa naissance. Mais à sa naissance, on s'en souffre pas. Donc après, si en arrivant plus âgé, il faut traîner avec des choses qui sont pas super possibles à supporter pour certaines personnes en tout cas, la douleur et tout, on a meilleur taux de s'en aller et dans la dignité, j'estime. Bon après-midi, merci.
Merci beaucoup, Laurent. C'est un thème qui est à la fois sensible, il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup de vécu, même dans la rue. La première rencontre, je le racontais l'autre jour, la première rencontre que j'ai faite en tendant mon micro LFM, c'était un monsieur dans la cinquantaine qui m'a dit « vous tombez bien parce que je viens de faire une tentative de suicide et je me suis inscrit à Exit ». Et il était accompagné par son infirmière, une infirmière qu'il raccompagnait dans la structure dans laquelle il vivait. Donc ça touche chacune et chacun d'entre nous.
Absolument, je connais aussi des gens autour de moi qui ont choisi de partir. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et peut-être qu'avant de parler de mort ou au droit à mourir, il faudrait s'interroger sur ce qu'est la vie. Et ce qui compose les plaisirs de la vie, la qualité de la vie. Une fois qu'on arrive à un stade où l'on n'a plus cette qualité de vie, ce qui fait l'essentiel de notre existence, la joie, l'indépendance, ce que vous voulez, la santé évidemment, bien effectivement le choix de partir, ça appartient à chacun. Il y a des situations de douleur, des situations de handicap, des situations irrémédiables aussi, qui font qu'on peut choisir effectivement de faire appel à Exit et puis de s'en aller au moment où on choisit. J'ai l'habitude de le dire, on fait beaucoup plus de cas souvent, notamment de nos animaux de compagnie et de leur départ que de nous, être humains, et qui avons parfois besoin, c'est vrai, de tirer la prise et de dire au revoir avec dignité et au moment que l'on choisit.
Vous nous avez envoyé beaucoup de messages très touchants, très émouvants. Voici un.
Je suis inscrite à Exit il y a 5 ans, à 55 ans, car j'avais des fortes douleurs insupportables et personne ne trouvait le diagnostic et ne pouvait me soulager. En fait, j'étais sous morphine, j'étais au lit et puis j'ai voulu mourir parce que c'était insupportable. Et mon médecin a refusé de signer le papier en me disant que j'étais trop jeune, qu'on allait trouver, etc. Et finalement, on a trouvé un médecin, il m'a opéré et maintenant ça va mieux. Voilà, comme quoi c'est délicat des fois. Voilà. Ça se discute.
Et oui, ça se discute. Et on sentait bien que chacune et chacun se sent concerné. Alors, il y a la discussion d'Exit, il y avait aussi la discussion soins palliatifs, où il y a un remarquable travail qui se fait dans ce contexte. Et notre invité, donc Edmond Pittet, des Pompes Funèbres Générales, nous a ramené à des choses essentielles de son quotidien, à lui, évidemment, qui est confronté au décès de tant de familles et puis à la souffrance de ceux qui restent. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est ressorti pas mal. C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont dans l'entourage.
Donc, qui sont là autour de la personne, qui doivent, dans certaines circonstances, se préparer en quelque sorte face à une échéance inéluctable. Et ça n'est pas facile, effectivement.
079 844 0077. Allez-y sur ce thème ou sur la fumée en extérieur, ça arrive.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Oui, Jean-Marc, tout ça pour ça. La récup de vous d'abord, c'est jusqu'à 13h avec Laurent Zibenman du matin.ch.
Bien, allons-en parler de fumée en extérieur. Autour de cette table, certaines personnes vont se sentir concernées, d'autres moins, d'autres pas.
N'est-ce pas,
fumée,
Laurent?
Absolument. J'ai pas dit qui. Fumée en extérieur, qui s'est pas mal focalisée sur les terrasses, les abribus, avec un partage des avis, autant chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, que chez les ex-fumeuses ou fumeurs. Et les messages le prouvent, c'était du 50-50 pour interdire la fumée en extérieur.
Alors, moi, je trouve excessif d'interdire totalement la cigarette sur les terrasses ou dans tous les espaces publics extérieurs. À mes yeux, empêcher quelqu'un de fumer dehors est disproportionné. Moi, je suis une ancienne fumeuse. J'ai beaucoup fumé pendant 10 ans, de l'âge de 16 à 26 ans, entre 78 et 88 au siècle passé. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Je trouve que les fumeurs ont dû s'adapter à de nombreuses restrictions, modifier leurs habitudes. Et je pense qu'il faudrait faire un petit peu preuve de tolérance envers eux aussi. Personnellement, aujourd'hui, et non fumeuse depuis plus de 37 ans maintenant, si la fumée me gêne à l'extérieur, ce qui est quand même rare, je me déplace tout simplement. Je ne vois pas pourquoi ce serait toujours les fumeurs qui devraient faire des concessions.
Laurent.
Alors, un peu comme le sujet qui suivra, je crois.
Les wagons silence.
Tout est question, je pense, de rapport à l'autre et d'éducation et d'empathie. Je pense que du côté des non-fumeurs, effectivement, il faut faire un peu preuve de tolérance vis-à-vis de celles et ceux qui ont envie de crapoter. Et puis, celles et ceux qui fument. Je fume parfois le cigare, j'aime bien, mais je fais gaffe. Je ne vais pas allumer un cigare à côté de gens, même chez moi. D'ailleurs, je fume en général dehors, pour être honnête. Je ne vais pas allumer un cigare à côté de gens qui n'aiment pas ça. Voilà. Et je crois qu'en fait, tout tient là-dedans. Essayons de nous écouter les uns les autres et puis de faire surtout preuve d'attention vis-à-vis des autres. Et tout ira bien, je pense.
Alors, j'aimerais que la réalisation de Carac fasse un gros plan sur le visage de Laurent Zibenman. Comme ça, si vous le voyez arriver sur une terrasse, fuyez, parce que s'il vient avec son cigare...
J'allume jamais un cigare en public, d'abord. Et même en ayant des gens autour de moi, en privé, je demande toujours s'ils acceptent ou non le cigare. Sinon, jamais. Mais c'est très rare, en plus, que j'en fume comme ça, à la sauvette.
Vous voyez, Valérie, c'est pas grave, finalement, le vapotage sur les terrasses.
C'est moins pire, peut-être. Il y a une hiérarchie, en plus.
Ah, il paraît, oui, ouais, c'est vrai.
Ouais, écoutez ce qu'en pense l'auteur de ce message.
C'est vrai que je comprends que la fumée passive et d'avoir quelqu'un qui fume à côté de soi quand on est non-fumeur, c'est désagréable. Personnellement, moi, je fais quand même attention à ne pas enfumer les gens avec ma cigarette. Pourquoi pas faire des terrasses fumeurs, des terrasses non-fumeurs, mais garder un lieu pour les fumeurs, c'est quand même... voilà.
Je fume comme un Turc, alors s'ils me font ça, je vais râler.
Alors écoutez, moi, je ne suis pas pour la cigarette, donc je trouve les arrêts de bus, terrasses, tout ça, c'est bien. Pouvoir interdire, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait interdire aussi. Hein.
Franchement, je ne sais pas, on va interdire quoi? De respirer bientôt? Faudrait payer l'air qu'on respire.
Voilà, on va maintenant s'intéresser au wagon silence que nous avons proposé en collaboration avec lematin.ch, un excellent éditorial de son rédacteur en chef.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Et le récap de la semaine jusqu'à 13h avec Laurent Zibenman, rédacteur en chef du matin.ch.
Et les wagons silence, pour ou contre? Alors chez nous, 80% de pour, clairement. On va voir si c'est le cas aussi chez vous au matin.ch avec des messages comme celui-ci.
Oui, bonjour. Moi, je pense qu'on devrait apprendre à tolérer les gens qui, par exemple, comme moi, si je prends le train, je sors avec des amis, on va écouter un concert quelque part ou on en revient et on aime bien en discuter avant, après. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas discuter dans le train. Il faut que les gens tolèrent un petit peu plus, ça se passera très bien. La tolérance a tendance à disparaître. Au revoir, bonne journée.
Alors Laurent, c'était comment chez vous? Chez nous, c'était assez clair. Hein. C'était pour, avec beaucoup d'énervement, de gens qui nous disaient on en a marre de connaître la vie privée et professionnelle des gens, on en a marre des gens qui téléphonent dans le train, mais aussi cette dimension, ne mettons pas trop de wagons silence parce que ben, nous, on prend aussi le train en famille ou entre amis, on a envie de discuter.
Ben, la tendance était à peu près la même chez les lectrices et les lecteurs du matin.ch qui relevaient une chose. Avant de parler de wagon silence, faisons attention, j'y reviens, les uns aux autres. C'est-à-dire que de se retrouver dans un wagon où on a le type qui téléphone en parlant très fort, l'autre qui regarde une vidéo, non pas avec ses écouteurs, mais avec le haut-parleur plein pot. Enfin, voyez, voilà, ces problèmes-là, en réalité, d'écoute des uns des autres, c'est ce qui était relevé très généralement dans les réactions, très nombreuses réactions que nous avons eues depuis mercredi sur le matin.ch, qui vont finalement dans le même sens des auditrices et des auditeurs de LFM.
Peut-être que ce message aussi.
Mais je me dis, les écouteurs, c'est fait pour quoi et pour qui? Je me dis, dans le train, mettez les écouteurs. Hein. Moi, j'ai déjà proposé aussi mes écouteurs à une personne à la piscine qui avait son téléphone plein tube. Donc, je me dis, autant mettre les écouteurs, comme ça, chacun pour soi. Et bonne journée, merci à vous pour les émissions.
Et le vaste thème des wagons silence, on en a parlé avec Jean-Philippe Schmitt, porte-parole des CFF, c'était est-ce que les wagons silence existent en Suisse? Est-ce qu'ils sont vraiment? Est-ce qu'il y a une interdiction? Est-ce qu'il y en a qui sont à disposition? Alors, on vient de recevoir un mail avec beaucoup, 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 beaucoup d'échanges de Derek. Derek, il a eu une malheureuse expérience en première d'avoir une jeune fille en face de lui qui a écouté toutes ses vidéos pendant tout le trajet avec les haut-parleurs. Alors déjà, on compatit. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous regardez sur Carac 3, je remonte les mails pour une réponse. officiel des CFF, nous surveillons la situation, mais une interdiction générale de ces comportements n'est pas envisagée pour le moment. C'était donc la réponse à si on se comporte mal, si, ouais. Est-ce que c'est amendable ou est-ce qu'on peut y faire quelque chose. Donc Derek a enterré.
Le voyageur qui l'embêtait.
A enquêté pour nous. Merci Derek.
Merci Derek. Alors, Laurent?
Non mais enfin voilà, c'est un cas qui me semble typique effectivement. Alors qu'on interdise totalement, je comprends la position des CFF. Et après bon, des wagons silence, pourquoi pas. C'est un endroit où on peut s'y tenir un peu tranquille. Mais pourquoi qu'en première classe alors? Effectivement, en deuxième classe, la question se pose. Pourquoi ne pas proposer des wagons silence qui soient accessibles à chacune et à chacun? On peut avoir besoin, pour des raisons diverses et variées, d'être dans un endroit un peu safe, voilà, où il n'y a pas de bruit. Je peux le comprendre aussi. Voilà. Je pense que c'est un mix des deux. Allez, un service pour tout le monde à bord des trains, et de l'autre, écoutons-nous les uns les autres, faisons attention les uns aux autres et n'embêtons pas nos voisins inutilement.
Et un dernier message sur ce sujet.
Je trouve que ceux qui travaillent dans le train et qui pianotent là sur leur machin, je trouve aussi pénible ça pour quelqu'un qui est seul, par exemple, à voyager à côté, que d'entendre quelqu'un raconter une histoire où à nouveau faire le fou, s'amuser, ou rigoler, ou jouer. S'ils veulent travailler dans le train et qu'ils veulent avoir la paix, ils vont travailler au bureau, ou alors ils s'y prennent avant, je ne sais pas. Il ne faut pas demander aux autres d'être silencieux quand nous-mêmes, en faisant là, notre concentration et tout. Moi, ces gens-là, ils m'énervent, en fait. Ça m'agace. Bonne journée, salutations.
Suggestion. On devrait créer un compartiment avec toutes les personnes qui ont témoigné. Donc vous d'abord, et voir comment ça se passe le temps d'un trajet en train.
Alors là, il ne nous faut pas un compartiment, il nous faut un wagon complet.
On y glisse un micro.
C'est ça. On va proposer ça à Jean-Philippe Schmitt, on met tout le monde dans le train, nous avec, du reste, et on voit comment ça se passe, c'est une bonne idée. Voilà, si vous avez encore un avis, vous pouvez l'exprimer au 079 844 0077. Laurent, merci beaucoup, et
merci,
on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Le thème que nous allons partager la semaine prochaine, vous et nous, ce sera manger sain, qu'est-ce que ça veut dire, et ce sera jeudi prochain, et chez vous mercredi.
Tout un programme.
Allez, on va écouter tout à l'heure un dernier message, celui de Nico.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Vous connaissez cette phrase « la liberté des uns », etc., etc. Voilà ce qu'on pense, ça c'est ce que nous a envoyé comme message Harold, un message vocal, mais voilà ce qu'on pense Nico sur la fumée.
Ouais, salut, c'est Nico du Valais. Pour la fumée passive, là, ou la fumée, interdire de fumer à l'extérieur, c'est quoi ce bordel? Moi, je suis pas fumeur, mais laissez-les fumer, y a pas de souci. La seule chose qu'il faut qu'ils respectent, c'est qu'ils prennent leur cendrier avec. Il existe des cendriers portatifs. On les voit dans tous les festivals. Même les Vaudois, Paléo, ils donnent des cendriers portatifs. Évitez de mettre les mégots par terre. C'est comme le papier, les chewing-gums. On ne crache pas. Voilà. On devrait interdire de jeter la cigarette par terre, mais pas de fumer. Voilà, un peu de respect. C'est la vie. Merci.
Alors, je précise que c'est ni Christian Constantin, ni Yann Lambiel, mais bien Nico qui s'est exprimé. La semaine prochaine, lundi, attention, que reste-t-il du Covid? Que reste-t-il du Covid? Donnez-nous votre sentiment, votre avis, exprimez-vous sur ce sujet, au niveau médical, au niveau social, au niveau humain, bien sûr, si ça a changé ou pas les habitudes. 079 844 0077, vous êtes ouvert dès maintenant, le répondeur et notre WhatsApp. Bon week-end Valérie, bon week-end Laurent, bon week-end Sarah, bon week-end à toutes et à tous.
Et à lundi.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier, la parole est à vous au 079 844 0077.